Nous parlerons aujourd'hui des pontons de Rochefort. La Révolution française a fait des milliers de victimes, non seulement parmi les nobles, mais aussi parmi les prêtres, les religieuses et les religieuses. Peu à peu, des massacres horribles se découvrent, et je dois avouer que la consultation des saints du mois de juillet, que j'aimerais vous présenter bientôt, m'a stupéfiée. Que de prêtres et de religieuses ont été décapités dans de nombreuses communes de France, ou sont morts dans le plus total abandon, notamment sur les pontons de Rochefort. Il m'a donc semblé important d'informer nos auditeurs sur ces massacres qui ont été tenus cachés pendant si longtemps. En conséquence, dorénavant, chaque fois que je découvrirai un martyr de la Révolution française, je vous le signalerai. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas un saint, mais les pontons de Rochefort. Nous savons maintenant avec certitude que la déportation sur les pontons de Rochefort a concerné 829 prêtres, dont 547 ont péri d'avril 1794 aux premières semaines de 1795. Mais pourquoi? Qu'avaient-ils fait de mal? Rien, bien au contraire. Alors, souvenons-nous. L'Assemblée constituante vota le 12 juillet 1790 la Constitution civile du clergé. Cette Constitution civile du clergé transformait les ecclésiastiques en fonctionnaires élus par l'Assemblée des citoyens actifs et évinçait le pape de la nomination des évêques. Ceci n'était pas acceptable par le Saint-Siège. Dès lors, il y eut en France deux sortes de prêtres. Les prêtres constitutionnels, assermentés ou jureurs, qui acceptèrent de se soumettre à cette constitution, et les prêtres réfractaires ou non jureurs, qui refusèrent de prêter le serment obligatoire. Les assemblées qui suivirent la constituante condamnèrent à l'exil, à la réclusion, puis à la déportation les prêtres réfractaires. Il convient de préciser ici ce que l'on sait beaucoup moins, qu'il y eut aussi des assermentés qui furent condamnés. L'Église souffrira beaucoup de ces événements. Les lieux de culte seront fermés, la pratique interdite et de nombreux prêtres furent massacrés. Ainsi, avoua plus tard le capitaine Lally du ponton Les Deux Associés, les prêtres, mais aussi les religieuses et les religieux, étaient rayés du livre de la République et on m'avait dit de les faire mourir sans bruit. Le 21 septembre 1792, la Convention succédait à l'Assemblée législative qui avait remplacé l'Assemblée constituante. La terreur, décrétée le 5 septembre 1792, s'installait en France. Des institutions révolutionnaires locales se multipliaient et les représentants du peuple envoyés par la Convention étaient chargés de faire appliquer le régime de la terreur. Mais les exécutions individuelles via la guillotine n'allaient pas assez vite. Il fallait accélérer l'épuration. En conséquence, le 25 janvier 1794, un arrêté du comité de salut public organisa le départ des prêtres réfractaires vers les ports de l'Atlantique, où ils devaient être regroupés avant leur déportation. Ceux qui furent emprisonnés à Nantes seront noyés par Carrier, et seuls Bordeaux et Rochefort mettront en œuvre les directives du comité et firent mourir les futurs déportés sans bruit. Les déportés qui arrivèrent à Rochefort furent incarcérés dans différents lieux, prison Saint-Maurice, couvent des Capucins, etc., et ou sur des navires. Finalement, ils seront tous entassés dans deux anciens navires négriers, Les Deux Associés et le Washington, réquisitionnés après l'abolition de l'esclavage par la Convention le 4 février 1794. Destinés à partir pour la Guyane ou les côtes d'Afrique, les bâtiments ne quittèrent cependant pas les sphères de la Charente. Le commandement des navires fut assuré par Lally pour Les Deux Associés et Gibert pour le Washington. Ils appliquèrent avec leurs équipages les consignes de sévérité avec rigueur, les aggravant même parfois. Prières interdites, injures, menaces, brimades physiques, nourriture infecte. Mais les prisonniers, dans le secret, poursuivaient leur activité religieuse. Les décès dus aux conditions de détention s'accélérèrent. Scorbut, typhus, etc. Les prisonniers, encore valides, furent transférés sur un troisième navire, l'Indien. Les plus malades furent débarqués sur l'île Madame, où beaucoup périront. Sur les 829 prêtres déportés à Rochefort, seuls 274 survécurent. Enfin, après le coup d'État du 9 Thermidor an II, le 27 juillet 1794, Robespierre, principal instigateur de la terreur, était exécuté. Les institutions du régime précédent, tribunal révolutionnaire, clubs et associations patriotiques, furent généralement supprimées. Bien des prisons commencèrent à s'ouvrir. Cependant, à la fin de l'année 1794, les pontons gardaient toujours leurs prisonniers. Quelques-uns furent libérés, mais aucune mesure collective ne fut prise. Grâce à quelques initiatives individuelles, le transfert à Saintes des prêtres déportés de Rochefort eut lieu en février 1795. Là, ils purent à nouveau célébrer le culte et administrer les sacrements dans les oratoires privés. Mais les persécutions étaient loin d'être terminées. En octobre 1795, la Convention ordonna la réclusion ou la déportation des prêtres réfractaires vers la Guyane. Ces départs n'eurent heureusement pas lieu et un décret du 4 décembre 1796 prononça enfin la libération des prêtres détenus. Mais cela était trop beau pour durer. Le 18 fructidor de l'an 5, c'est-à-dire le 4 septembre 1797, un coup d'État des républicains du directoire condamna les adversaires politiques à être emprisonnés ou déportés. Les décrets de proscription envers les prêtres furent renouvelés et ils furent de nouveau emprisonnés à Rochefort. Quelques-uns furent effectivement envoyés en Guyane où la mortalité était effrayante. Cela dura jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, 9 novembre 1799, qui donnera le pouvoir à Bonaparte. Les persécutions des prêtres prirent fin lorsque le Saint-Siège conclut un concordat avec la France, ratifié le 5 avril 1802. Cet accord, signé par le pape Pie VII et le premier consul Bonaparte, permettait la réorganisation du catholicisme dans le pays. L'hécatombe que nous venons de rappeler resta pourtant longtemps ignorée et même volontairement tenue cachée. Cependant, la cause des prêtres et des religieux massacrés aboutit à la béatification solennelle d'octobre 1995, par laquelle l'Église reconnut en 64 des victimes des pontons d'authentiques témoins de la foi, mis à mort volontairement en haine de la foi et en acceptant consciemment leur sort. Cette béatification est connue sous le nom « Le bienheureux Jean-Baptiste Souzy et ses compagnons ».